Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanche du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Bonjour, je remercie le professeur Rosmini de m'avoir invité à son émission, donc je suis son collègue Monsieur Cravero, et je vais vous parler comme lui d'un western philosophique. Mon nom est Personne.
Dis pas, comment il a fait le monsieur? J'ai entendu qu'un seul coup de feu.
C'est question de vitesse, mon petit.
Dis pas, tu crois qu'il y a au monde quelqu'un de plus rapide que lui?
Plus rapide que lui? Personne.
Ce film est tourné en 1973 par Tonino Valeri et Sergio Leone. À la composition musicale, nous retrouvons le grand Ennio Morricone. Dans le rôle de Jack Beauregard, Henry Fonda. Et dans le rôle de Personne, Terence Hill. Alors, quel intérêt ce film? Pour moi, je vois plusieurs points. Et je vais vous entretenir de deux points qui me paraissent non pas essentiels, mais importants. Le premier point, c'est celui du temps. Et le deuxième point, celui du rire. Dans ce film, nous avons affaire à deux cow-boys. L'un qui vieillit, et l'autre qui est le jeune cow-boy, la nouvelle génération, cow-boy des western spaghetti. Cette fracture entre nouveau western et western ancien est montré sous différents aspects, différents angles. Cela va des échanges verbaux entre Jack Beauregard et Personne. Je suis trop vieux, ce n'est plus de ma génération, même la violence a changé. Effectivement, Jack Beauregard a raison, la violence a changé. La horde sauvage est le parfait exemple de cette nouvelle violence, à la fois organisée mais anonyme, sans attache. Ce n'est pas le dernier film de Henry Fonda, ni le premier de Terence Hill. Terence Hill a déjà joué dans deux autres westerns, dans deux Trinitas. Et ce film, justement, se veut comme un passage de témoin entre deux générations.
Il est toujours là, mon bateau?
Départ Sundowner dans 16 jours, stop. Urgent, envoyer $500 pour confirmer réservation, stop. Je suis toujours en contact avec la Nouvelle-Orléans, monsieur. Alors, qu'est-ce que je leur dis?
J'ai encore 16 jours, j'ai tout le temps.
16 jours, ça n'est pas énorme, même pour un gars de ta taille. Qui va rester si toi aussi tu pars?
Personne.
Finir est souvent plus difficile que commencer.
Comment finir? Un homme comme toi doit finir en beauté.
Le temps a une importance dans ce film. On enterre quand même un certain type de western. On enterre même un réalisateur, Sam Peckinpah. Terence Hill, dans le cimetière, lit son nom sur une pierre tombale, avant de lire par la suite le nom de Nevada Kid, le frère de Jack Beauregard. Nevada Kid tué par la horde sauvage et que Beauregard veut venger. Sam Peckinpah est le réalisateur du film intitulé justement La Horde Sauvage, sorti en 1969. Ce même réalisateur sort en 1973 Pat Garrett et Billy the Kid, tout comme Clint Eastwood qui sort la même année L'Homme des Hautes Plaines. Deux westerns qui se veulent fidèle à la tradition. D'ailleurs, dans son film, Clint Eastwood lit le nom de Sergio Leone sur une pierre tombale. Au-delà de cette rupture donc entre deux visions du western, il y a la présence constante d'un rapport au temps. On le perçoit dans la musique des New Morricone qui égrène les minutes avant les duels. Et l'idée que Jack Beauregard doit entrer dans les livres d'histoire, devenir éternel. Voilà ce que veut personne. Donc, Jack Beauregard doit échapper au temps. Le temps représenté dans le film par un train qui s'immobilise. C'est le passage où Beauregard se retrouve face à la horde sauvage alors qu'il attend le train. Le train est conduit par personne, Terence Hill, qui arrête le train et oblige ainsi Beauregard à affronter la horde sauvage, à affronter son destin tel Œdipe. Ce moment où le train conduit par personne, Terence Hill, s'arrête et laisse seul Beauregard affronter la horde sauvage, nous fait penser que le train est le symbole du temps. Il s'immobilise. C'est le moment où Jack Beauregard entre dans l'histoire. Le train immobile représente le temps arrêté, l'éternité. Philosophiquement, le temps nous a toujours posé des problèmes. Le temps est symbolisé par le mouvement. Et comment rendre raison justement de ce mouvement? Comment rendre raison de quelque chose qui bouge, qui passe? Alors que pour notre connaissance, nous avons besoin de quelque chose de stable. Cette question justement est une fracture, un partage chez les penseurs pré-socratiques, c'est-à-dire avant Platon. D'un côté Parménide, pour qui l'être est fixe. D'ailleurs il dit « l'être est, le non-être n'est pas ». Et d'un autre côté, Héraclite. Pour lui, tout passe, tout coule, tout change. On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. L'eau du torrent est toujours eau du torrent, même si elle n'est jamais la même. Donc, voilà la définition d'une doctrine mobiliste. Sur ce, Aristote, lui, va essayer de trancher ce différent en passant le temps par analogie avec le mouvement. Le temps aura donc aussi un point de départ et un point d'arrivée. Comme le mouvement, et créer dans le temps des unités, seconde, heure, comme il en existe aussi pour le mouvement, maître, pied. C'est ainsi qu'Aristote exprime la première définition claire du temps. Le temps est le nombre du mouvement. Voilà. Et donc, si le mouvement s'arrête, ce mouvement représenté par la locomotive s'arrête, à ce moment-là, Jack Beauregard touche à l'éternité, il entre dans l'histoire. Ces oppositions-là, justement, dans le film, sont très nombreuses. Alors, opposition entre le vieux, le jeune, opposition entre les anciens westerns, les nouveaux, entre les westerns spaghetti et westerns classiques. Dans ces oppositions-là, il y a le cow-boy sérieux, Henry Fonda, Jack Beauregard, et le cow-boy plaisantin, joué par Terence Hill. Ce cow-boy-là, plaisantin, justement, est toujours souriant. Il raconte des histoires, des boutades. Cela nous permet de nous interroger sur la signification du rire. Est-ce que finalement le rire n'est pas là à opposer au sérieux, justement, et peut-être nous permettre de connaître le sérieux? Cela rejoint Bergson. Le rire nous permet de comprendre la vie. Le rire nous permet de comprendre le sérieux. S'interroger sur le rire, c'est s'interroger sur ce qu'est la vie. La vie semble, dans le comique, se donner une sorte de jeu avec elle-même. Bergson parle de trois observations pour nous aider à comprendre le comique. La première, il n'y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain. C'est-à-dire qu'un paysage peut être beau, gracieux, sublime, mais il n'est pas risible. On rira par contre d'un animal, souvent parce qu'il a pris une attitude d'homme ou une expression humaine. La deuxième observation que l'on retrouve chez Bergson, c'est l'idée que le comique suppose une certaine forme d'insensibilité. Le rire explose aisément au milieu d'une atmosphère figée et tendue. C'est assez étrange comme d'un coup nous pouvons nous lâcher et basculer du tragique au comique le plus déridé. Il est remarquable d'ailleurs que les plus grands artistes comiques eh bien, sont ceux qui ont une attitude quasiment tragique. Pensant à Buster Keaton, qui ne souriait jamais. Que Charlot, Charlie Chaplin, qui reste très neutre dans son visage, il est souvent pris dans des situations affreuses et il y a une neutralité dans son visage. Il est dans la misère la plus totale, comme dans son film La ruée vers l'or. Il n'exprime aucun sentiment. Comme s'il fallait presque pleurer pour rire. Le comique aussi, il y a une troisième observation que l'on trouve chez Bergson, le comique se développe au sein d'une conscience commune. C'est-à-dire que conscience commune, c'est que le rire est quelque chose de social, autant que culturel. Beaucoup d'effets comiques restent intraduisibles d'une langue à l'autre, parce que relatifs par conséquent aux mœurs et aux idées d'une société. On peut, en contrepartie, penser au comique gestuel, qui passe les frontières. Et là, justement, nous retrouvons notre film « Mon nom est personne », où Terence Hill fait énormément de gestes pour s'exprimer. Il donne des baffes, il bouge énormément, il sourit, pour arriver à faire rire, en fait. Et Bergson, justement, le philosophe Bergson, va établir comme thèse que la vie est un mouvement permanent. Et ce mouvement est fluide et continu. Et s'il y a une rupture de ce mouvement, à ce moment-là, il y a rire. Et pour qu'il y ait rire, il faut que cette rupture soit inattendue dans le mouvement. Il y a une mécanique de l'habitude chez nous, dans notre conscience, la mécanique de l'habitude qui porte le mouvement dans une direction. Il suffit de changer brusquement ce mouvement, cette continuité, pour provoquer alors un effet, un gag. On retrouve cela lors du duel dans le saloon. Après avoir bu plusieurs verres de whisky et réussi à atteindre ses cibles, personne, joué par Terence Hill, est défié en duel. Alors qu'il s'approche de son ennemi, on s'attend à des coups de revolver. Là non, l'image accélère, il dégaine certes, mais rengaine, et puis donne des gifles au tueur. Et cela recommence. Nous sommes devant un spectacle de clown. Ce qui était mouvement permanent, un mouvement attendu, et d'un coup, hop, en rupture. Donc, cela provoque un effet, un gag.
Je crois que tu n'as pas bien compris ce jeu. En réalité, c'est très simple. Tu fais bien attention, hein? Tac, 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 tac. Enchanté.
Nous retrouvons cela aussi à la fête foraine, quand il lance une tarte à la crème, quand il se retrouve devant le tourniquet ou dans le palais des glaces. Cette scène d'ailleurs du Palais des Glaces se retrouve dans le film de Chaplin, Le Cirque, où Charlot, poursuivi par la police, se retrouve dans une fête foraine et entre également dans le Palais des Glaces. Pour en revenir au film, malgré les différences et les oppositions que nous trouvons entre les deux cow-boys, il y a un lien qui les unit, c'est le lien de la morale, de l'éthique. Personne, Terence Hill, donne une morale à Beauregard, et Beauregard nous explique cette morale à la fin du film. C'est la morale de l'oisillon qui reçoit une bouse de vache, qui le réchauffe, et le coyote qui le nettoie pour le manger. Le cow-boy héroïque se réfère donc à une éthique. Il sauve la veuve et l'orphelin, il combat le racisme, comme le fait personne, c'est-à-dire Terence Hill, lorsqu'il envoie sa tarte à la crème sur le visage de l'esclavagiste. Il y a d'autres entrées philosophiques dans ce film, et même psychanalytiques, comme le complexe d'Oedipe. Terence Hill vénère Fonda, mais veut dans le même temps le supprimer, pour le supplanter. A noter pour finir que Terence Hill dit souvent « La vie ne tient qu'à un fil ». Alors pour cela, je vous renvoie au dernier duel. Regardez bien ce qui se passe au niveau de la poche de revolver d'Henry Fonda. Dans la prochaine chronique, le professeur Rosmini reviendra et parlera d'un western de John Ford. Un western mythique, « My Darling Clementine ».
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.